Radio Django. Vivre à Lausanne.
Voilà, nous avons pris l'habitude de présenter sur nos ondes les nouvelles éditions bimestrielles de Moins, le journal roman d'écologie politique. On va donc parler aujourd'hui du numéro 27 qui couvre les mois de février et mars 2007. Et nous le faisons avec Mathieu Glaire. Salut.
Salut.
Mathieu, tu es un des rédacteurs de ce magazine et c'est avec toi qu'on va le feuilleter. On va feuilleter ce nouveau numéro qui est dans les kiosques depuis une dizaine de jours. Alors, chaque numéro propose un dossier sur un thème bien précis. Le numéro 27 est consacré au corps. Alors, une question bateau peut-être pour lancer nos voix respectives au micro de Radio Django. Pourquoi ce thème ?
On va voir si on arrive à flotter un petit peu avec la question bateau. Oui, effectivement, c'est un thème qui nous intéressait, qu'on avait encore peu, voire jamais traité. On peut dire, je dirais en général que le productivisme en général, le capitalisme en particulier, se sont développés de manière en phagocytant de plus en plus d'espace, peut-être lors du 19e et 20e siècle, des espaces physiques. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'espace sur Terre, de pays ou de régions où le capitalisme n'étant pas son emprise, essaye de tirer du profit dans toutes les régions du monde. Donc depuis probablement quelques années que l'entier du globe est recouvert par la toile productiviste, eh bien, le capital doit aller chercher les nouveaux profits ailleurs, dans des espaces qui avant étaient peut-être protégés, des espaces qui sont plutôt des espaces internes. On peut penser à l'air qu'on arrive maintenant à commercialiser à travers les permis de polluer au CO2, etc. Et puis, entre autres, il y a aussi le corps. Jusqu'à maintenant, ça a toujours semblé de l'ordre de l'impossible de pouvoir commercialiser le corps, commercialiser la grossesse, un utérus, à part peut-être le cas particulier de la prostitution, dont on ne parle pas dans ce journal. Mais voilà, depuis quelques années, la question du corps, de la pression sur le corps, du transhumanisme, de changer le corps pour l'adapter à la modernité, de pouvoir commercialiser certaines parties de son corps, se sont fait jour. Et puis du coup, on avait envie de pouvoir explorer un petit peu, en analysant un peu qu'est-ce qui se passe, quelles sont les tendances, et puis quelles sont les résistances également. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on devrait faire pour essayer de lutter contre la marchandisation du corps.
Alors, ça tombe bien, marchandisation du corps, c'est aussi un des thèmes qui intéresse la décroissance, notamment. Il y a un article en page 13 qui est signé de Olivier Voirol, sociologue à l'Université de Lausanne, qui parle qui s'intitule Le capitalisme du cœur, du cœur, et qui en fait il parle plutôt de la vente du corps et plutôt des relations qu'on peut tisser sur la toile, sur le net.
Oui, effectivement, c'est l'article d'ouverture du dossier qui ne se réfère pas directement au corps, plutôt dans les rapports sociaux, puisque le corps humain est toujours pris dans un réseau de rapports humains. On n'est pas humain si on n'est pas lié aux autres. Donc on a justement proposé cet article d'ouverture à Olivier Voirol, qui est sociologue à l'Université de Lausanne. Donc on peut déjà signaler que c'est un article local, si on veut. Et puis c'est un article qui nous semblait intéressant dans le sens que c'est effectivement une des tendances de la modernité, avec la digitalisation, avec les réseaux sociaux, avec cette sphère avec laquelle on est en général assez peu critique, en particulier même à gauche, dans les milieux écologistes, où on va souvent beaucoup utiliser ces nouvelles technologies, alors qu'on s'aperçoit qu'en fait, elles permettent aussi la marchandisation de certaines sphères qui, avant, étaient impossibles à marchandiser. Alors, on peut penser à tous les réseaux sociaux, à la Facebook et compagnie, qui permettent de tirer du profit de l'amitié, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Et puis là, cet article, en parallèle, il parle de la manière dont la rencontre amoureuse, qui avant était quelque chose d'hautement naturel, improbable.
Surtout comme aujourd'hui, le 14 février.
En plus, c'est vrai que je n'ai même pas pensé à ça.
J'ai dit pensé aussi.
À côté de la plaque. Donc ça tombe assez bien d'en parler. Eh bien, tout cela, aujourd'hui, voilà, on peut le passer par des algorithmes, on peut passer par la machine pour
rencontrer.
Voilà.
On délègue.
On peut déléguer, et puis pas seulement déléguer, mais en plus déléguer à une machine. Ce n'est pas tout à fait déléguer la même chose de déléguer à peut-être un ami, une entremetteuse ou la famille.
Là, c'est l'algorithme, tu dis.
Voilà, c'est l'algorithme. Rythme déjà.
On met un certain nombre de comment dire de
caractéristiques, voilà, de demandes, voilà. D'exigences.
Et on va nous trouver l'âme.
Voilà, qui vont être quantifiées, alors que s'il y a quelque chose qu'on peut espérer qui devrait échapper à la quantification, c'est bien. L'amour.
Ouais.
Donc évidemment, ça transforme les rapports sociaux. Tout instrument qu'on utilise n'est jamais neutre. Il a des conséquences dans la vie réelle. Donc le fait de passer par des agences ou par un site internet pour rencontrer l'âme sœur va évidemment transformer les rapports sociaux. Et c'est ce qu'on essaye d'analyser, de réfléchir dans cet article.
Toujours dans la marchandisation du corps, on trouve des articles qui parlent de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui. Waouh, des termes incroyables. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Donc on trouve ça, je vais vous dire, on feuillette le journal, on vous l'avait dit. Apprendre à articuler écologie critique de la technique et féminisme par Aude Vincent et Aude Vidal, notamment qui parle de l'insémination artificielle et la fécondation in vitro en faisant bien la différence entre les deux techniques.
Hein. Oui, alors on a effectivement deux doubles pages sur les questions de procréation, de contraception. On pourra remarquer que c'est assez rare qu'on voit un article qui est consacré d'ailleurs à la contraception masculine,
oui.
Ce qui est assez rigolo, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, si on veut revenir en particulier à la procréation médicalement assistée et à la gestation par autrui, c'est vrai qu'on a un peu essayé de travailler cette question du corps féminin, de la manière dont le corps féminin est traité par la modernité. On peut peut-être historiquement juste rappeler que à partir de 2012 et puis la loi en France sur le mariage pour tous, on a, disons, un débat dans la sphère publique en France, mais aussi chez nous et en particulier chez les écologistes, cette question de la procréation médicalement assistée qui est limitée normalement aux couples hétérosexuels infertiles. Donc faut-il ouvrir la procréation médicalement assistée à tout le monde, aux couples hétérosexuels, homosexuels, etc. Et puis il y a une réflexion dans les milieux écologistes. Certains pensent que oui, pour des raisons d'égalité, il faudrait ouvrir à tout le monde. En même temps, il y a certaines résistances parce que ce sont des technologies qui sont complexes et qui cherchent à abolir certaines frontières. Mais alors, tombe-t-on dans certaines attitudes réactionnaires? Donc, il y a tout un débat qui s'est ouvert à gauche et dans les milieux écologistes par rapport, entre autres, à la procréation médicalement assistée. Donc, on a voulu aussi traiter de ce thème-là en essayant de trouver une limite, c'est-à-dire sans tomber dans la diabolisation de la technologie, ni tomber, évidemment, dans un conservatisme à tout craint. Est-ce qu'il existerait une sorte de limite ou un endroit où on pourrait dire en deçà, on pourrait utiliser une procréation médicalement assistée relativement simple écologiquement, au-delà peut-être que ça devient contre-productif ou non convivial au sens d'Yvon Illich. Et puis effectivement la gestation par autrui, qui est encore une dimension qui va plus loin, donc l'idée de la location de l'utérus féminin. Donc,
et ça, on trouve un article en deux pages, des propos recueillis
par Alessia Didio, qui a interviewé
Daniela Donna. Hein,
voilà,
Danna.
Voilà, une sociologue italienne, féministe, lesbienne, objectrice de croissance, donc une personnalité très intéressante.
Qui a étudié le sujet. Hein.
Voilà, et puis qui a un discours, on dira, assez étonnant et décoiffant sur le sujet.
Maîtrise du corps par la technologie et la course à la validité, en contraposition à l'invalidité. C'est aussi des choses, c'est aussi une réflexion qu'on trouve pas mal dans ce dossier sur le corps.
Oui, c'est aussi...
La course à la performance, notamment.
Voilà, c'est vrai qu'on a, on a souvent dans nos sociétés l'idée de dire qu'il faut améliorer ou réparer le corps déficient, et de plus en plus grâce à des technologies. Et on peut se poser la question, on entend en tout cas très rarement l'idée que peut-être on pourrait, au lieu d'adapter, le corps à la modernité, on pourrait adapter la modernité à nos corps défaillants. C'est une idée qui est un petit peu sortie de nos viseurs, mais pourquoi ne pas créer des sociétés plus aimantes, plus apaisées, qui accepteraient chacun avec ses différences, qui aideraient chacun et chacune à vivre avec ses différences, en considérant que la différence est une richesse, et donc à valoriser la différence, en permettant aux gens de s'accepter les uns les autres avec leurs limitations, plutôt que de lutter contre les fragilités à grands coups d'instruments technologiques, de bio-implants ou bien d'appareillage des sourds.
Voilà, il y a justement un article sur de Philippe Huguenin, qui fait partie de la rédaction de moi, qui s'intitule « La culture ». Culture du valide et résistance des sourds. Et là, c'est bien le cas que dont tu viens de parler. C'est l'implantation d'une sorte de micro, de chip dans le cerveau pour faire que les sourds entendent. Alors, on sait qu'ils entendent très mal. Mais c'est ça. C'est la course à éliminer l'invalidité. Et ça, on trouve ça... beaucoup dans ce dossier. Hein.
Oui, parce que ça répond, je crois, à un besoin actuel, c'est-à-dire d'une société productiviste qui a besoin pour, d'un côté, pouvoir produire toujours plus de produits standardisés, et de l'autre, consommer de plus en plus, a besoin de gens qui soient tous les mêmes, qui fonctionnent tous de la même manière, qui reçoivent tous les mêmes messages et qui réagissent de la même manière aux mêmes messages. Donc effectivement, le fait de réagir à la différence, par exemple la différence des sourds, en les appareillant, en les faisant entendre, outre la souffrance que ça peut créer, on va faire des sourds des gens comme les autres, entre guillemets,
alors qu'il y a plutôt... Il y a une culture des sourds,
alors qu'il y a, on va détruire ce panel de culture, exactement. Et puis là, ça semble intéressant de se dire, est-ce qu'on pourrait pas plutôt faire une société qui soit une société amie avec les sourds, amie avec les étrangers, amie avec les homosexuels, leur permettre de vivre leur vie de manière le plus épanouissante possible, tout en adaptant justement la société, plutôt que d'adapter ces gens à une société qui est plutôt assez mortifère.
Oui. D'ailleurs, pour rester dans le milieu des sourds, dans le thème des sourds, la langue des signes pour laquelle les sourds se sont battus pendant des années, des décennies, ou des siècles même, elle était bannie parce que c'est comme ça qu'on voyait l'invalidité s'exprimer dans la rue ou à travers des personnes. Donc c'est pour ça qu'on bannissait la langue des signes pour essayer de les amener à l'oralité. Donc voilà. La course à la technologie, on trouve aussi dans un article de Bernard Legault, qui est membre du mouvement politique des objections de croissance, en page 19. Et le coup problématique, c'est la technologie et la vie.
Alors, je dois avouer que je ne me rappelle plus vraiment de cet article. Je ne l'ai pas relu pour le coup. Donc, je vais te proposer de passer à ta question suivante. Je vais jouer mon joker.
Ok, joker.
Et j'espère que Bernard me le pardonne.
Alors, transhumanisme, c'est aussi un terme qui vient souvent dans ce dossier. Le transhumanisme, qui est aussi cette technologie qui va... qui est là pour de nouveau pour adapter l'homme à la société.
Oui, on va parler de pouvoir télécharger plutôt son cerveau sur un disque dur, ou bien si on a un bras qui fonctionne pas très bien, on va le remplacer par un bras bionique. Donc ce sont c'est cette idée là d'augmenter l'être humain à travers la machine. Ça semble pour beaucoup d'entre nous d'être des élucubrations, un peu de savants fous au fond de leur laboratoire. Le problème, c'est que c'est pas du tout le cas. C'est des choses qui sont très avancées, qui ont le vent en poupe, et qui en fait considèrent que les sociétés d'aujourd'hui sont devenues complexes, compliquées, et puis que quelque part le bon vieux humain avec ses cinq sens, avec sa sensibilité, finalement il est plus tellement adapté, donc il devient un goulet d'étranglement pour vraiment utiliser au maximum les nouvelles technologies, les nouvelles potentialités. Et donc, au lieu d'adapter notre environnement à l'être humain, nos outils, non, il faut adapter l'humain aux nouvelles technologies pour qu'il soit plus rentable, qu'il reste jeune ad aeternam, etc., etc. Donc effectivement, le transhumanisme est quelque chose qui fait assez souci,
qui fait assez peur même.
L'idée, de pouvoir devenir immortel, etc. Et une des choses qui fait en particulier peur, évidemment, c'est que ce sont des technologies qui déjà ont des coûts, évidemment, donc qui pourront jamais être atteignables par tout le monde. Et comme d'habitude, ce sera toujours les personnes les plus fortunées qui auront accès à certaines transformations, à une sélection de leurs enfants, etc. Et puis pour les autres, nous deviendrons ce que disait un de ces gourous, nous serons les chimpanzés du futur. Des gourous du transhumanisme signalaient que les personnes qui refuseront de se laisser augmenter, de se laisser greffer des chips, ce seront dans le futur ce que les chimpanzés sont aujourd'hui à l'humain.
Dont je serai sûrement.
Voilà.
Il y a aussi, toujours dans ce thème-là, Osons rester humains, un article de Geneviève Azan, coprésidente du conseil scientifique d'Attac France, en page 21, qui parle aussi de ce problème de technicité lié à la vie. Donc, Osons rester humains, le titre est assez...
Le titre dit presque tout.
Non, c'est un bel article.
Non, ça vaut quand même la peine de le lire, évidemment, mais disons que le titre est clair.
Oui, alors le temps file, on sort un petit peu du dossier. Enfin, on finit le dossier par un dessin. On n'a jamais parlé, en présentant le moins, des dessinateurs qui font des merveilles dans ce magazine. Un dessin de Patrick Rion, enfin de Rion, qui montre un robot à qui on a mis un pénis, qui est en fait une tige filetée avec un boulon, puis ça a l'air de marcher.
Oui, c'est vrai que c'est...
Et puis le titre, c'est « Le progrès, tout est possible ». On pourrait parler encore de beaucoup de choses. De quoi on parle ?
En tout cas, c'est un défi. Tu as réussi à parler d'une illustration à la radio. C'est fort. Je crois qu'on peut te féliciter pour ceci, parce qu'il faut le faire.
Il faut le faire. De quoi on parle encore dans les 2 minutes qui nous restent ? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant ?
Alors écoute, je mettrai peut-être en avant un spectacle qui aura lieu tout bientôt, cette fin de semaine, jeudi et vendredi, à Yverdon. Donc un spectacle qui s'intitule L'Émeute, par un comédien, metteur en scène, un artiste du Nord vaudois, yverdonnois, qui a bénéficié d'une résidence par la ville d'Yverdon à Gênes pendant 3 mois et qu'on a rapporté en faisant une enquête un petit peu sur les événements anti-G8 d'il y a quelques années, un spectacle engagé sur la modernité, le capitalisme, le productivisme, ses résistances, la décroissance. Un spectacle intitulé L'Émeute, et donc ce jeudi et ce vendredi au Théâtre de l'Échandelle à Yverdon. Par Yvan Richardet, une mise en scène, un texte d'Yvan Richardet avec une mise en scène de lui-même et puis avec un appui de, le nom m'échappe, mais c'est quelqu'un
de Thierry Romanos. Bon, il y a aussi un article qu'on va vous conseiller de lire, l'étau des startups se resserre en Suisse romande, d'un collectif qui s'appelle Nos Futurs, qui prend la plume pour parler un peu de ces incubateurs ou accélérateurs d'idées qui viennent des États-Unis, qui s'implantent pas mal au niveau des EPFL et des universités ici en Suisse. Enfin, on a parlé que du tiers du journal, moins...
Oui, c'est pour ça qu'on n'en sort qu'un tous les 2 mois, pour laisser le temps aux gens de le lire.
Merci Mathieu pour être venu nous présenter ce numéro 27.
Merci à vous pour l'invitation, c'est toujours très chouette de pouvoir partager ces quelques minutes.
Merci, le journal roman d'écologie politique, donc bimestriel, qui couvre février et mars, et que vous pouvez trouver déjà dans plusieurs points de vente, les kiosques.
Voilà, la plupart des kiosques de Suisse romande, et puis il est également disponible sur abonnement, au prix libre, au numéro, on peut nous le demander, soit par téléphone, soit sur notre petit site minimaliste notre courriel info@achetezmoi.ch ou bien www.achetezmoi.ch.
Super, alors rendez-vous d'ici quelques semaines pour présenter le numéro 28, avec un grand plaisir. Et encore un mot pour vous dire que la mise sous pli pour l'envoi du prochain numéro se fera le samedi 1er avril à Vevey, dès 10h, information au 021 921 62 56 ou, comme vient de le dire Mathieu, sur info@htmoi.ch. Merci.
Merci, au revoir.